Bonsoir à nos fidèles auditrices, auditeurs d'Aligre FM. Pascal au micro pour partager avec vous un moment musical dans l'émission Chacun son tempo. Je salue à la régie mes complices qui vont réaliser cette émission. Madame Renée Clancy, Mademoiselle Yasmine Bandali et Monsieur Armand Gury. Je reçois un pianiste, il est arrangeur, compositeur argentin, il s'appelle Pablo Murgier Pasdera. Sa musique est axée sur le jazz tango contemporain. Il a déjà à son actif plusieurs albums. Je vous invite à les découvrir avec Gare du Sud, à travers ses compositions. Son aisance au piano est une invitation au voyage.
Thank you.
Bonsoir Pablo Murger.
Bonsoir Pascal.
Merci de vous être arrêté ce soir dans une station, mais pas celle d'une gare. Celle de notre station de radio à Ligre FM. Bienvenue Pablo.
Merci beaucoup pour cette invitation.
Je vous en prie, avec plaisir pour nous. Pourquoi ce jeu de mots de ma part? Car votre album s'intitule « Gare du Sud ». Alors, que raconte cet album?
Cet album, ça parle du voyage. Ça, il parle aussi de la migration. De la migration dans la vie, de la migration dans la musique. La musique en tant que migration en soi. Je pense que le mot migration est vraiment... il n'y a pas de musique sans migration, en fait. Oui. C'est quelque chose que je crois profondément, et c'est pour ça que la musique a un rôle à jouer qui est tellement important dans l'actualité. Et je suis un passionné aussi des trains. J'adore voyager en train. C'est quelque chose que...
Alors, les auditrices, auditeurs ne peuvent pas voir l'album, et je le mettrai en photo. Il est en photo sur Facebook. Hein. On voit donc... cette photo qu'on peut voir sur cet album, vous pouvez l'expliquer un petit peu? On voit des trains, on voit... ça a l'air très rude, le climat derrière.
Oui. Et c'est une photo qui a été prise par une très bonne amie à moi, qui s'appelle Chloé Debel. Et c'est une photo qu'elle a fait lors d'un voyage en Bolivie. C'est dans une ville qui s'appelle Uyuni, en Bolivie. Et c'est un lieu qui s'appelle le cimetière des trains. Et je me souviens que quand j'avais décidé à l'époque d'entamer un album, j'avais une idée de répertoire, je venais de conformer mon quartet ici en France. J'avais quelques idées pour les noms de morceaux qui me manquaient et tout ça. Et un jour, je suis allé voir Chloé et j'ai vu cette photo qu'elle a dans sa maison encadrée. Je me suis dit, ça c'est la couverture de mon album, c'est une évidence. Et c'est à partir de cette photo-là que j'ai créé le morceau Gare du Sud, qui est le morceau qui ouvre cet album.
Bien sûr.
Et aussi, c'était une histoire de jouer un tout petit peu avec le concept du Sud. Dans mon histoire personnelle, on pourrait dire qu'il y a un rapport avec le Sud de l'Amérique latine, déjà, mais aussi avec le Sud de Buenos Aires, parce que je viens d'une ville qui est au Sud de Buenos Aires, c'est la ville de La Plata. Et on dit, quand on invite à La Plata, qu'on vient du Sud.
Alors vous m'enlevez la question, d'où venez-vous exactement?
De cette ville, La Plata, qui est à une soixantaine de kilomètres de la capitale, Buenos Aires, mais qui est une ville différente, et qui est la banlieue sud de Buenos Aires, on pourrait dire ça. Et il y avait cette idée, lors de mon arrivée à Paris, j'étais un peu surpris avec ces deux gares manquantes à Paris, parce qu'on a la gare du Nord, la gare de l'Est, mais il n'y a pas une gare du Sud. Et l'idée, c'était de créer une gare qui soit musicale, quelque part, qui soit cette image de beaucoup de gens qui arrivent, beaucoup de gens qui partent, chacun et chacune avec son casque, avec son histoire, avec leur musique aussi, qui amène de loin ou pas, mais tous ces mélanges-là, c'est quelque chose qui me passionne. Et cette image de Chloé Debel et cette idée d'arrivée, de départ, de voyage, m'est parlé énormément. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un album qui porte ce titre.
Alors ce titre, Gare du Sud, est le titre de cette composition qu'on vient d'écouter, Domingo, qui est magnifique. C'est un subtil mariage, je dirais, entre votre piano, Pablo Murger, et le bordoneon de Simone Tolomeo. C'est magnifique, c'est une alchimie, tous les deux. Et justement, Domingo, ça veut dire dimanche.
Oui.
Que vous rappelle les dimanches quand vous étiez jeune? Qu'est-ce qui peut venir comme souvenir? Vous étiez dans votre ville à ce moment-là, quand vous aviez 15-16 ans.
Quand j'étais petit.
Quand vous étiez petit, est-ce qu'il y a, quel est le souvenir qui vous revient de suite sur un dimanche, quand je vous demande un dimanche, un souvenir comme ça? En famille?
Les dimanches en Argentine, c'est les jours des pâtes. On mange des gnocchi, par exemple.
Bien.
Mais il y avait cette histoire d'un repas en famille qui était super important. Aussi, c'est les jours de foot, je pourrais dire.
Oui.
Carrément. Mais c'est un peu la journée de rencontre en famille. Et ça, c'est quelque chose qui... toute ma famille est toujours en Argentine. Et à chaque dimanche, quand ils sont là, ils sont chez mes parents, ils m'envoient des photos. Et c'est vraiment la grosse juntada, la grosse réunion qui commence à midi et qui peut finir à 22h du soir. Et oui, c'est ça. Mais ces morceaux, ils ne parlent pas forcément de cette réunion-là, mais d'une autre type de réunion que j'ai vécu, qui n'était pas forcément une réunion consentante, parce que quand j'habitais dans mon dernier appartement avant de venir en France, à La Plata, il y avait tous les dimanches un groupe de percussionnistes qui défilait en face de chez moi. Et quand je dis un groupe de percussionnistes, je parle d'une vingtaine, une belle vingtaine de personnes qui tapaient leur tambour et qui marchaient, mais ça pouvait durer. Je ne sais pas si les auditeurs et auditrices ont la chance d'avoir un voisin, une voisine qui fait la musique, mais on entend très fort parfois. Imaginez-vous 25 tambours qui résonnent en face de chez soi. Et comme je me suis dit que je ne pouvais pas du tout gagner cette bataille, c'était perdu en avance, il fallait que je joue avec eux. Et à chaque fois qu'ils passaient, je me mettais au piano et j'improvisais un tout petit peu. Évidemment, ils ne m'entendaient pas, mais moi oui, très fort. Et petit à petit, j'ai composé ces morceaux qui m'accompagnent depuis 10 ans presque. Et qui j'ai enregistré plusieurs fois parce que je n'étais pas content. Et finalement, avec cet album, on a fait la version définitive.
Dans cet album Gare du Sud, chacun de vos titres, de vos compositions, raconte une histoire, j'imagine.
Oui.
Beaucoup, hein, vous inspirez.
Oui, il y a beaucoup de ça.
On reviendra là-dessus. Vous dosez beaucoup, avec finesse, j'hésitais pour trouver mes mots pour ne pas me tromper, la musique classique actuelle et le jazz. Je me trompe un petit peu. Est-ce que la musique populaire, entre autres, fait-elle partie de votre répertoire?
Oui, bien sûr. C'est la musique que le plus écoutée dans ma vie, je pense. La musique classique, c'est quelque chose que j'ai découvert dans une deuxième phase de ma vie, surtout quand je fais des études à l'université, que j'étudiais la musique classique surtout, mais les rock, la pop et les jazz sont un peu les musiques qui ont bercé mon enfance. D'accord. Et que je voulais jouer depuis le moment que j'ai rencontré un piano pour la première fois. Ça a été immédiat. Et c'est pour ça aussi que je suis quelqu'un qui ne fait pas trop de distinctions entre ces musiques-là. Je pense qu'elles sont vraiment très étroitement liées les unes avec les autres.
Pablo Meurgier, je vous rappelle le thème de cette émission dont vous faites partie. C'est de vous découvrir à travers des albums qui ont un peu façonné votre parcours. Et je vous ai demandé de m'apporter un morceau qui vous rappelle donc votre enfance, votre adolescence. Et là, vous m'avez dit, c'est Cat Jarrett, c'est ça? C'est celui-là. On écoute et on revient. Thank you. C'est un extrême, évidemment. Je pense que les auditrices auditeurs ont compris. Kate Jarrett, un concert de 1992 à Vienne. Je regardais Pablo Murgi quand l'extrait passait. Vous aviez les yeux fermés, hop, complètement dans le morceau. Dites-moi deux mots sur lui. C'est musicien hors pair, bien sûr, pianiste.
Oui. En fait, c'est super fort pour moi d'entendre cette musique parce que ça me transporte tout de suite ailleurs. Je me souviens que quand j'ai commencé à jouer du piano, j'avais 4-5 ans, peut-être. Et un ami de mon père m'avait offert cet album, en fait, de ses concerts en Vienne. Et moi, j'ai les souvenirs de les soirs de me mettre dans les jardins de la maison avec dans son sac à couchage, avec mon Walkman, et écouter ça, regarder le ciel. Je me souviens même de quelques fois que je me suis endormi et mes parents venaient me chercher avec les Walkman. C'était un peu cette situation. Et Keith Jarrett, il le continue à être pour moi un héros, un royaume de lumière, un élan de liberté totale. Et par rapport à la question que vous m'avez posée avant sur ce qui se passe entre la musique classique, les musiques populaires, le jazz, je pense que Keith Jarrett, il est vraiment au rond-point de tout ça. Chez lui, et notamment dans les débuts de ses concerts, qui est merveilleux. C'est un concert que j'essaye de ne pas écouter souvent, comme si c'était quelque chose qu'on peut user et qu'il faut vraiment préserver.
C'est vous qui l'avez demandé ce soir.
Oui, on fait l'exception parce que ça vaut le coup ce soir aussi.
Mais il y a de l'émotion là chez vous.
Bien sûr, mais les débuts de ces concerts, quand il joue 2-3 accords en sol majeur, qu'il fait des pauses dans les endroits où on dirait le moins attendu. Il y a une sorte de fragilité dans cette musique que je trouve merveilleuse. J'ai ces souvenirs. Et notamment, les autres concerts solo de Keith Jarrett, c'est lui en Cologne. Il est plus célèbre, mais aussi c'est lui à Paris. Et plus récemment, c'est lui à Budapest. C'est beaucoup plus que des concerts. Moi, il y a cette histoire chez Keith Jarrett et parfois dans les jazz de mettre le nom de la ville à un album, et pour moi c'est un peu comme des batailles contre soi-même, contre le piano. Mais il y a un peu cette image que j'ai de la bataille de Vienne, non, de Keith Jarrett comme Don Quichotte un peu tout seul contre tout le monde, dans sa tête. Et c'est impressionnant comme il est capable de créer tant de beauté face à un piano tout seul. C'est extraordinaire.
Pablo Murgi, on va écouter maintenant une composition de votre album qui s'intitule « Deux rues Corneille ». Où se trouve cette rue? Peut-être vous allez nous le dire après. Thank you. Vous écoutez Allegre FM 93.1, l'émission c'est Chacun son tempo, l'invité Pablo Mourgier. Et une question, vous êtes venu à Paris dans les années 2017, si je me souviens bien.
Oui, c'est ça.
Quelle en était la raison? Pourquoi venir à Paris?
Ça fait 8 ans que beaucoup de personnes me posent cette question. C'était, je pense, que un mélange des raisons, mais il n'y en avait aucune qui soit vraiment valable pour m'inventer une vie ailleurs, en fait. J'avais fait quelques tournées en Europe, mais je connaissais pas trop la France, en fait. C'était des tournées qui étaient plutôt en Allemagne, en Pologne, en Suisse. Et dans un moment un peu compliqué pour la culture en Argentine à ce moment-là, j'ai vécu une situation assez expulsive qui m'a poussé à prendre cette décision de faire une expérience ailleurs, de voir autre chose. Après, il y a évidemment une connexion avec la France. Dans ma famille, j'ai des origines françaises, déjà. Et mon père s'est exilé à Paris dans les années 70. Et j'avais une curiosité de découvrir un peu cette ville dans laquelle il avait vécu une période de sa vie assez noire aussi, pour une sorte de revendication de faire les choix de venir ici. Après, j'avais aucune idée de comment ça allait se passer. Et j'avais jamais imaginé que j'allais être capable de construire une vie dans tous les sens qui soit si épanouissante comme celle que j'ai aujourd'hui, dans un plan émotionnel, on pourrait dire, dans mes amis, dans mes collègues, et aussi dans ce que j'ai pu construire en tant que musicien en France.
Alors, Paris, selon vous, est-ce que ça reste la plateforme, le haut lieu du jazz?
Bien sûr que oui, mais je pense que la France, c'est le deuxième pays du jazz à niveau mondial. Juste pour la quantité de festivals, tous les groupes du monde passent par ici, c'est vraiment impressionnant. Et c'est également la deuxième ville du tango dans le monde entier. Ça veut dire qu'après Buenos Aires, il n'y a pas une autre ville en Argentine où il y ait tant d'activités liées au tango comme Paris. Et ça, c'était quelque chose que moi, quand je suis arrivé, j'ai joué beaucoup du tango. C'était ma principale activité. Et ça a été vraiment très aidant pour moi d'être dans un milieu où il y avait plein de collègues, plein de personnes qui étaient dans les circuits et qui pouvaient m'apporter des choses et aussi auxquelles je pouvais les apporter peut-être quelque chose aussi. Et ça a été merveilleux.
Je voulais citer vos musiciens dans cet album. Il y a Minimo Garay.
Minino Garay.
Garay. Vous me reprenez, n'hésitez pas. Hein. Minimo Garay. Il y a Simone Tolomeo et Romain Lecuyer.
Exactement.
Ils sont, donc, c'était un quartet, cet album.
C'est à la base un quartet. Le morceau qu'on vient d'entendre, c'est un trio. Il n'y a pas de bandonion. Mais c'est un quartet qui a été conçu pour cet album. Et on est presque tout le temps, les quatre, ensemble, dans ce répertoire.
Je vous ai demandé de m'amener un album qui est votre album de chevet, celui que j'imagine un peu comme un bouquin qui est posé sur une petite table. Et c'est lequel?
J'ai beaucoup réfléchi à ça parce que j'en ai plein.
D'accord.
c'est difficile de faire le choix. Mais je me suis penché pour Björk, qui est une artiste qui m'a beaucoup marqué et que j'ai redécouvert les derniers mois. Parce qu'on pourrait dire que j'ai vécu un tout petit peu avec sa musique. Björk, c'est quelqu'un que j'écoutais énormément dans les années 2005-2010, on pourrait dire, c'était juste incroyable pour moi de concevoir tout ce qu'elle fait, parce que Björk, c'est inclassable.
C'est vrai.
C'est quelqu'un qu'on ne peut pas mettre dans une caisse. Même, elle va vraiment si loin de la musique, aux confins de la musique, dans ses textes, dans sa manière de communiquer, dans les messages qu'elle porte. Et cet album qui est homogénique, c'est mon album d'échevée, mon album préféré de Björk. Je ne me souviens pas l'année de sortie de cet album, mais c'est les années 2000, je pense, où...
Ils vont. La technique va chercher l'année. Alors,
Ok.
vous disiez, cette artiste inclassable, et elle vit dans un pays qui est presque inclassable, l'Islande, qui est vraiment un pays extraordinaire, qui peut expliquer peut-être sa façon d'être en tant qu'artiste. Fascinante, cette artiste. Une voix, une signature, comme on dit. On continue à découvrir votre album, un morceau tiré de Gare du Sud qu'on écoute tout de suite et on revient. Thank you. Pablo Mourgier, vous arrive-t-il de vouloir mettre des images, ou plutôt vous arrive-t-il d'imaginer des images quand vous composez?
Oui, c'est des cas pour ces morceaux. Que c'est une improvisation collective, c'est pas une composition que je fais. J'avais envie d'ouvrir un espace d'improvisation qui soit pas établi en amont, parce qu'il y a de l'improvisation dans cet album, mais c'est sur des structures, c'est des solos qui sont faits sur la forme d'une composition. Dans ces cas-là, il n'y avait pas des consignes musicales. Par contre, j'avais donné une image, les fourgones, c'est en espagnol la dernière voiture d'un train. Et c'est aussi la voiture dans laquelle on met le vélo, par exemple. Et c'était un peu l'idée du dernier écho d'un album qui a un peu cette image d'un train qui voyage quelque part. Et je trouvais que c'était fort comme image, comme vous dites, d'arriver quelque part.
Nous avons beaucoup de chance, chers auditrices, auditeurs, d'avoir Pablo avec nous, parce que le 6 et 7 novembre, il était à Berlin. Je crois que vous étiez encore entre le 6 et aujourd'hui ailleurs, mais le nom m'échappe. Le 15, vous repartez en Angleterre pour un masterclass. L'objectif de ce master, c'est, je crois, d'aborder une thématique avec d'autres musiciens, il me semble. Le 20 novembre, vous êtes à Genève. On a la chance de vous avoir le 14-12 à Paris. Vous me direz le nom de la salle. Vous en rappelez?
Oui, le 14, ce sera au Disquaire.
Disquaire.
Avec mon trio, et c'est dans l'après-midi. C'est à 17h.
Disquaire.
Avec Romain Lecuyer et Miguel Couto.
Alors, vous jouez dans différents pays d'Europe et ailleurs. L'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, la Norvège, l'Autriche, ou encore le Japon, la Chine, en Russie. Ma question, c'est pour en arriver là. Quand vous êtes en concert et les morceaux que vous interprétez dans différents pays, entre la Chine et la Norvège par exemple, est-ce que vous ressentez, vous, en tant que musicien, leurs émotions? Est-ce qu'ils ont une écoute différente? Est-ce qu'ils réagissent différemment? Est-ce que vous êtes en fusion de la même façon avec les Chinois qu'avec les Allemands?
Non, mais je sais pas si je suis le même musicien quand je joue au Duc de Lombard à Paris ou au Studio de l'Ermitage, parce que c'est des situations différentes, on a des différentes attentes. Je ne sais pas si on peut classer. Évidemment, il y a des questions d'écoute qui sont culturelles.
Oui.
Je peux dire, par exemple, dans mon expérience de mon voyage au Japon, c'est un public qui peut-être n'est pas très effusif, mais qui est vraiment redevable et très effusif à la sortie du concert. Je n'ai jamais vécu ça dans une... même manière d'avoir tellement du monde qui veulent te saluer à la fin d'un concert. Et après, évidemment, il y a des codes qui sont culturels et qui sont les propres de chaque culture, de chaque pays. Mais je pense que c'est qui marque plus de différence, c'est les milieux de circulation, c'est-à-dire c'est pas les mêmes codes un jazz club qu'une philharmonie, une salle de concert. C'est ça qui on est un peu formaté, je pense, de manière un peu universelle, et sont des codes qui sont propres à tous les pays dans le monde entier.
Est-ce que le piano peut être un refuge spirituel pour vous, parfois?
Oui et non. Je sais que c'est quelque chose que si j'arrive à aligner avec mon état d'esprit, ça peut être super puissant pour moi, je veux dire. Le fait de jouer les pianos, d'improviser, c'est d'avoir accès à un monde intérieur où il se passe plein de belles choses, mais aussi des choses difficiles parfois. Et c'est un moyen d'expression qui est très précieux. Après, j'avoue que dans le moment qu'on traverse dans le monde, et avec tout ce qui se passe à niveau social, on pourrait dire, à niveau écologique, et plein d'autres problèmes qu'on a, et c'est difficile parfois de me consacrer à la musique. J'ai du mal. Même en ce moment, je passais beaucoup de temps à réfléchir sur ma musique parce que j'ai enregistré un album cet été qui sortira en janvier. Et il y a énormément de décisions à prendre sur ça. Et on passe beaucoup de temps à décider, et que ce soit dans la graphique, que ce soit dans la partie légale ou dans la partie musicale, bien entendu. Et à plusieurs reprises, je sais que les mots c'est un peu fort peut-être, mais je trouve ça grotesque en fait de consacrer tellement de temps à ça alors qu'il y a des choses tellement terribles qui se passent autour de nous tous les jours. Et après, il y a des moments que je me dis oui, mais la manière dans laquelle je fais ça, c'est un élan d'essayer de rendre quelque chose, en fait. Il y a cette intention. Évidemment, je sais que la musique en soi, elle change pas grand-chose. Mais si on peut donner quelque chose qui connecte avec un sensible, c'est déjà immense.
Alors justement, on va mettre une petite note de bonheur, je vais souligner un peu vos propos. Je vous ai demandé de m'apporter un album qui représente le bonheur selon vous. Vous m'avez dit, Elis, Regina, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidar do meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram. E o sinal está fechado para nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pelo.
Aligre FM 93.1, chacun son tempo avec Pablo Mourgier. Album Bonheur, Elis Regina, en deux mots, pas une phrase, en deux mots. Elis Regina, c'est qui pour vous?
La meilleure.
Bien.
Avec Mercedes Sosa.
Quelle est la difficulté majeure pour adapter une œuvre, selon vous, une œuvre déjà existante? On va pas écouter l'extrait ce soir, mais c'est un morceau qui fait partie de votre prochain album. Moi, je l'avais découvert sur YouTube. C'est une reprise de David Bowie et Live on the Mars, que vous avez joué notamment à Berlin. Ça devient une transcription complètement personnelle. On se l'approprie en une certaine façon.
Oui, c'est que je me demande quand je veux jouer quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est qu'est-ce que je peux apporter à cette pièce-là? Où est-ce que j'ai envie de mettre l'accent ou de mettre une touche qui m'appartienne à moi, tout en respectant ces morceaux à l'origine, parce que c'est clair que ces morceaux, il n'a pas besoin de moi, David
qu'on
Bowie,
reconnaît pas
il
tout de
m'a pas
suite. Hein.
appelé.
C'est terrible, c'est ça la magie
Oui,
du jazz,
exactement.
L'improvisation. Vous arrivez et puis Après, hop, les notes s'installent et là, on reconnaît le thème. C'est magnifique.
Bah, alors, c'est bien réussi. Parce que c'était exactement l'idée. Et il y a le défi aussi d'un morceau qui a un texte que face au piano solo, le texte il est plus là. Il y a une dimension qui n'existe plus ou qui existe dans l'imagination de la personne qui écoute, si elle connaît la chanson. Et c'est un texte qui est merveilleux et qui est très d'actualité. Si on y pense, si on réfléchit aux paroles de Life on Mars, c'est quelque chose qui pourrait être composé hier.
Bien sûr.
Et c'est aussi pour ça que je voulais, avec beaucoup d'humilité évidemment, mais sortir à la rescousse de ces morceaux pour l'amener aujourd'hui, les faire jouer différemment. Au piano solo, en laissant plus d'espace pour l'imagination de la personne qui écoute, et avec une version de piano qui est, on pourrait dire, très classique par moment, qui est très en lien avec une manière de jouer qu'on trouve dans la période baroque, par exemple, et aussi avec d'autres citations, parce que c'est un morceau qui est très en lien avec une autre reprise que j'ai enregistrée, qui est Oblivion d'Astor Piazzolla. Et Piazzolla et Bowie, c'est deux personnes que je pense elles ne se sont jamais rencontrées, mais j'aime bien cette idée d'imaginer un café entre ces deux personnes que j'ai beaucoup écoutées et que je peux faire dialoguer dans ma musique à moi.
Astor Piazzolla, le maître du tango avec le bandoneon,
évidemment,
entre autres. On continue. Je vous ai demandé de un coup de pouce sur un artiste peut-être que nous, sur Aligre, on ne connaît pas, bien que. Et là, vous m'avez cité Mathias Lévy.
Oui.
Avec une chanson, alors une reprise, puisqu'on parle de reprise, Tous les cris, les SOS. On écoute un extrait. Bientôt à la fin de l'émission et j'aurais terminé avec une de vos compositions. Et la composition, c'est un cadeau que vous nous faites. Je pense que je peux être fier et orgueilleux parce que il n'a jamais été diffusé encore. C'est un morceau que vous nous offrez. Vous m'avez proposé Bivouac, c'est ça?
C'est le premier mondial.
Votre dernier album qui sort quand?
Le single Bivouac va sortir en début décembre.
D'accord.
Le 7 décembre. Et après, l'album Sirocco sortira en digital en janvier. Et si vous êtes à Paris, le 19 mars au Consulat de Voltaire, c'est le concert de présentation.
Dans le 11e, je crois.
Dans le 11e. Et je me permets de dire que la musique qu'on entend, Mathias Lévy, il présente cet album mardi prochain au Studio de l'Ermitage.
Vous avez très bien fait. Et là, cet album qui sortira donc en 2026, hein, On ne va pas trop développer, mais pour moi, je l'ai écouté. C'est un autre chemin, il y a d'autres inspirations musicales. Pablo Murgier, un grand merci. Ce fut un plaisir de vous recevoir et de faire ce voyage avec vous. Nous allons nous quitter donc avec une de vos compositions de cet album, exclusivité que vous nous offrez sur Aligre FM. On peut déjà dire le titre du prochain album ?
Oui, l'album s'appelle Sirocco.
D'accord.
Et ce morceau s'appelle Bivouac. Et je vous remercie, Pascal, pour cette invitation.
C'est moi qui vous remercie. Et en février, vous faites un concert. Moi, je n'y serai pas. Mais quand même, pour présenter sa sortie à Buenos Aires.
Oui, c'est ça.
Et donc, on le répète, le 19 mars, au consulat Voltaire à Paris, c'est 14 avenue Parmentier. Je voulais remercier à la régie René Clancy, Yasmine Bandali et puis Armand Gury qui m'ont assisté tout le long de cette émission. Sarah, que je remercie, une auditrice qui est venue. Voilà, une auditrice. Bienvenue Sarah également, merci de nous écouter. Ciao, ciao, à la semaine prochaine.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.